pour une économie généreuse, c'est le thème de notre culte ce matin, proposé par Miché France et Miché International. Et pour ces cultes, l'association Miché nous envoie des documents sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour préparer ces cultes. Donc c'est ce que Ghislaine a fait pour la première partie du culte, c'est ce que je choisi de faire aussi pour la prédication. Il y a plusieurs plans de prédication qui sont proposés sur le site de Miché. Et donc j'ai choisi de prendre un des plans de prédication, celui qui est proposé par le pasteur Thierry Sival, qui est pasteur d'une église évangélique à Bar, en Alsace, que je connais par ailleurs. Et donc je vais suivre ce qu'il a préparé pour cette prédication ce matin. Nous parlons d'économie généreuse. Alors, je ne sais pas comment ces mots résonnent à vos oreilles, mais ils pourraient nous paraître contradictoires. Ne dit-on pas « faire des économies » ? Le mot « économie » peut nous paraître étonnant, être associé à la générosité. Quand on fait des économies, c'est plutôt justement pour ne pas dépenser d'argent ou pour en mettre de côté. Qu'est-ce que ça veut dire une économie généreuse ? Dans le dictionnaire, on trouve différentes définitions de l'économie. Gestion où l'on réduit ses dépenses et où on évite des dépenses superflues. Par économie, on va faire un trajet à pied plutôt qu'en bus ou en voiture, par exemple. L'économie, c'est aussi ce qu'on épargne. Vous savez que les Français sont champions pour mettre de l'argent sur leur livret A, sur des comptes d'épargne, ce qui ne plaît pas dans une société de consommation où on est appelé justement à dépenser de l'argent pour faire tourner le système économique. L'économie, c'est aussi un système de régulation et d'organisation qui vise à diminuer des dépenses et à s'adapter aussi à un but visé. On l'a vu aussi dans les films qu'on a vus tout à l'heure. Mais la définition qui correspond en général à ce qu'on entend par économie au niveau d'un système économique, c'est l'ensemble des activités d'une collectivité humaine relative à la production, à la distribution et à la consommation de richesses. Comme Ghislaine l'a dit tout à l'heure, savez-vous que la Bible parle d'économie ? Elle utilise même le mot « économie ». Notre mot économie vient du grec oikonomia, économie. Oikos, c'est la maison en grec, et nomos, c'est la loi, donc c'est le système qui fait tourner la maison, la maisonnée. C'est l'organisation financière et matérielle de la vie de famille. Économie. Nous savons que la théorie économique qui domine aujourd'hui dans notre monde, c'est l'économie de marché. Et ce marché est censé se réguler tout seul. C'est ça le principe de l'économie de marché. Le marché est censé se réguler tout seul. La loi de l'offre et de la demande s'équilibre d'une certaine manière et on est dans un système de libre concurrence. Là aussi, libre concurrence, ça peut paraître paradoxal. Les prix sont censés s'équilibrer d'eux-mêmes. Et actuellement, pratiquement tous les pays fonctionnent à des degrés divers, sur les bases de cette économie de marché. Beaucoup de chrétiens adhèrent, consciemment ou non, à ce système qui est une forme de croyance, on pourrait dire une forme de religion. Mais vous le savez, les crises qu'a traversé le monde économique ces dernières années, crise alimentaire, crise pétrolière, crise écologique, ont mis à mal cette croyance que l'économie du marché s'équilibre et se régule toute seule. On a aussi montré par des études de l'OCDE ou du Fonds monétaire international que la fameuse théorie du ruissellement, selon laquelle les revenus des plus riches sont finalement réinjectés dans l'économie et bénéficient à tout le monde, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que nous constatons dans notre monde ? C'est que les plus riches deviennent toujours plus riches et les plus pauvres deviennent toujours plus pauvres. Cette idée que la richesse produite par les plus riches servirait à tous, c'est une belle illusion. Selon les théoriciens, pour que le système économique mondial, il faut que les acteurs économiques soient rationnels. Mais un seul exemple suffit pour nous montrer que cette théorie est irrationnelle, illusoire. Il se trouvera toujours quelqu'un suffisamment plongé dans la misère pour accepter un travail pour une rémunération plus faible que celle de son voisin. On trouvera toujours quelqu'un dont la famille est suffisamment affamée pour qu'il accepte de tout sacrifier pour acheter une nourriture à un prix exorbitant, en espérant qu'un miracle suivra. Et il se trouvera toujours quelqu'un de rationnel, soi-disant, pour en profiter de cette misère. Donc vous voyez, ça ne tient pas la route. Les marchés sont aujourd'hui fortement influencés par les spéculateurs, nous le savons. Et l'appât du gain ne rend pas l'être humain rationnel. Regardez par exemple les salaires des meilleurs joueurs de football. C'est complètement irrationnel, délirant. Être payé des millions et des millions pour taper dans un ballon, c'est irrationnel. Et on sait bien que c'est pas que taper dans un ballon. Hein. C'est tout le marketing, les produits dérivés, les sponsors, la publicité, etc. Hein. Pour l'économie de marché, les États doivent intervenir le moins possible dans l'économie, qui est censée se réguler toute seule. La Bible, elle, nous dit tout autre chose. On va afficher un certain nombre de textes bibliques pour que vous puissiez suivre. Hein, c'est une prédication thématique ce matin, donc on va parcourir ensemble un certain nombre de versets bibliques qui sont ficelés les uns à la suite des autres. À vous, à nous, de vérifier le sens de ces versets et de vérifier que nous en tirons quelque chose qui soit juste d'un point de vue biblique. Je peux mettre psaume 82. Voilà, donc pour une économie généreuse, dans le psaume 82, Dieu appelle les rois de ce monde et il leur dit « Ah, jusque à quand défendrez-vous les injustes et prendrez-vous le parti des méchants ? Défendez le faible, l'orphelin. Soyez juste à l'égard du pauvre et du malheureux. Libérez le faible et le misérable. Délivrez-les de la main des méchants. » Voilà l'appel que Dieu lance aux rois, aux dirigeants de ce monde, il y a peut-être 2500, 2600 ans. Et là, dans ce texte, il n'est pas question que les rois soient compatissants, bons. Ils ne sont pas appelés à aimer les autres. Ils sont appelés à leur faire droit, justice, à défendre les plus faibles. Voilà la mission que Dieu donne aux rois. Et qu'est-ce que Dieu constate au verset suivant, verset 5 ? Mais ils ne comprennent rien, ils ne savent rien, ils avancent tâtonnant parmi les ténèbres, tous les fondements des pays du monde en sont ébranlés. C'est des rois dont il s'agit ici, des rois qui ne respectent pas la justice dans leur propre pays. Des rois qui ne défendent pas les plus faibles. Donc on voit d'un côté l'appel de Dieu aux gouvernants, aux dirigeants de ce monde, à prendre soin des plus faibles et le constat que les rois ne répondent pas favorablement à cet appel. Face à cette économie de marché dont je parlais tout à l'heure, la Bible nous propose un autre modèle dont nous parlons ce matin, une économie généreuse. Économie de marché ou économie généreuse. Et donc nous allons réfléchir ensemble ce matin à ce que la Bible nous dit de cette économie généreuse au travers de trois points. D'abord, nous allons nous souvenir ensemble combien Dieu est généreux. Ça a été évoqué déjà ce matin. Nous allons aller un peu plus loin. Nous allons ensuite voir comment Dieu nous appelle à notre tour à être généreux comme lui. Et enfin, nous lirons ensemble quelques promesses bibliques pour les gens généreux, pour nous encourager aussi à être généreux. Premièrement donc, Dieu est généreux. Nous avons un Dieu généreux. L'apôtre Jacques nous dit dans sa première lettre, dans son premier chapitre au verset 5, Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Dieu est bon et généreux envers tout être humain. Ça peut nous surprendre quand on pense aux gens qui sont affamés ou qui vivent des difficultés aujourd'hui. Où est ce Dieu bon et généreux pour eux? On pourrait dire aussi, où sont les rois, les dirigeants de ce monde justes et généreux que Dieu demande? Dans l'évangile selon Matthieu, Jésus rappelle que ce Dieu est bon et généreux à la fois sur les gens bons, mais aussi sur les méchants. Dieu fait briller son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. La pluie ici, c'est pas négatif, hein. C'est pas le soleil sur les bons et la pluie sur les méchants. La pluie ici, c'est un signe de bénédiction. Quand il y a la pluie, ça veut dire qu'il va y avoir des récoltes. D'accord? Donc Dieu accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Imaginez si Dieu n'envoyait la pluie que sur les agriculteurs chrétiens. On ne mangerait pas grand-chose. On voit encore dans l'évangile, là j'ai pas mis les références, que Dieu, c'est plutôt dans les paraboles de Luc, organise des fêtes somptueuses et non méritées lorsque, par exemple, le fils prodigue revient à la maison. Luc chapitre 15. Nous voyons encore, Luc chapitre 14, Dieu organisait un banquet pour tous les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, qui nous représentent finalement. Tous ceux qui ne méritent pas ou ne mériteraient pas d'entrer dans le royaume de Dieu et que Dieu appelle à entrer dans son royaume. Jésus connaît les cœurs. Et pourtant, il a guéri des gens. On se souvient par exemple de cette guérison de 10 lépreux, et un seul est revenu dire merci. Pourtant, les 9 autres ont été guéris. Voilà un signe de la générosité de Dieu. Dans le psaume 65, là on va afficher le texte, nous trouvons encore ces paroles. Tu prends soin de la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes. Tu la détrempes par des pluies. Tu bénis ses pousses. Verset suivant. Tu couronnes l'année de tes biens et ton passage apporte l'abondance. Les plaines du désert sont arrosées et les collines sont entourées d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de blé. Les cris de joie et les chants retentissent. Des paroles qui expriment la bonté, la générosité de Dieu pour sa création et du coup pour nous qui bénéficions de la bénédiction de cette nature. La joie et les chants retentissent quand par exemple les ouvriers vont faire les récoltes aux champs. C'est un moment de joie, c'est un moment de fête. Et puis, le point culminant de la générosité de Dieu dans toute la Bible, Ghislaine l'a mentionné tout à l'heure, je l'avais noté ici aussi, Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La générosité de Dieu se manifeste par excellence avec la venue de Jésus. La vie qu'il a vécue, la vie qu'il a donnée pour nous, et puis sa résurrection et le fait qu'il règne aujourd'hui, qu'il va venir un jour pour vivre avec nous. Ce Dieu qui est généreux avec tous les hommes, ce Dieu qui est généreux avec les bons comme avec les méchants, ce Dieu qui est particulièrement attentif aux estropiés, aux aveugles, aux boiteux, il nous appelle à notre tour à être généreux, à prendre exemple sur lui pour être généreux. Et nous passons au deuxième temps de cette prédication. Dieu nous appelle à être généreux, j'aurais pu ajouter, comme lui. Dans le livre du Deutéronome, nous voyons que Dieu invite le peuple à ce qu'il n'y ait pas de pauvres parmi eux. Il dit, en fait, il ne doit pas y avoir de pauvres parmi vous, car l'Éternel, votre Dieu, veut vous combler de bénédictions dans le pays qu'il vous donne comme patrimoine foncier, pour que vous en preniez possession, à condition toutefois que vous l'écoutiez pour obéir à tous les commandements que je vous transmets aujourd'hui et pour les appliquer. Je ne rentre pas dans les détails ici, mais la Bible ne s'oppose pas à la propriété privée. Vous voyez, le peuple va entrer en possession d'un pays qui va lui appartenir, même si ça reste quelque chose qu'il doit gérer et qui, au final, appartient à Dieu. Mais ce n'est pas une propriété privée égoïste dans laquelle on met des barrières pour défendre ce qu'on pense être à soi et pas à Dieu. Mais Dieu est réaliste, parce que ça c'est utopique, il ne doit pas y avoir de pauvres parmi vous. Verset suivant. Il ne manquera pas de pauvres au milieu du pays, parce que Dieu connaît le cœur humain. C'est pourquoi je te donne ce commandement, tu n'endurciras pas ton cœur, tu devras ouvrir ta main à ton frère et aux pauvres dans ton pays. Tu n'endurciras pas ton cœur, ni à ton frère, ici le frère c'est le compatriote, hein, ni aux pauvres dans ton pays. Ce n'est pas forcément le voisin, mais un autre membre du peuple qui est pauvre. Et puis, cette solidarité s'étend aussi à l'étranger, à l'immigrant. Verset suivant. Si un immigrant vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Vous traiterez l'immigrant en séjour parmi vous comme un autochtone, comme un habitant du pays, du milieu de vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été immigrant dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça, c'est un sujet d'actualité, n'est-ce pas? L'accueil de l'immigrant. Plus que jamais, et dans les années à venir, ça va encore être d'actualité. Voyez, on retrouve le « tu aimeras ton prochain comme toi-même » adressé à l'immigrant. Jésus a résumé ces deux commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. L'immigrant fait partie de ce prochain que nous devons aimer comme nous-mêmes. L'immigrant, c'est l'étranger en position de faiblesse. C'est celui qui vient dans notre pays à cause de la famine ou de la guerre. Je vous fais noter au passage qu'un certain nombre d'immigrants qui arrivent chez nous aujourd'hui, c'est parce que nous sommes allés faire la guerre dans leur pays. La Libye, par exemple. L'immigrant, il n'a pas de terre puisqu'il vient chez nous. Et peu de biens. Souvent, il vient juste avec ses vêtements, n'est-ce pas? L'immigrant, en général, n'est pas en recherche d'intégration. Beaucoup d'immigrés, ici dans le texte, n'immigrent pas pour devenir juifs. Mais ils essayent de survivre et de faire survivre leur famille. L'immigré, c'est l'étranger dans le besoin. Celui qui est peut-être à ma portée et dont je suis appelé à me soucier. Et donc, dans notre contexte de mondialisation, notre souci pour ces prochains-là est très large. Cette exigence d'accueil de l'étranger, de l'immigrant, est toujours fondée sur Dieu qui lui aussi aime l'étranger. Et c'est parce que Dieu aime l'immigrant, aime l'étranger, qu'il nous a demandé, à la suite de son peuple, de l'accueillir. J'aime beaucoup la fin de ce verset. Pourquoi Dieu dit « Tu l'aimeras comme toi-même » ? Parce que le peuple d'Israël a lui-même été en situation d'immigration. Et pourtant, Dieu l'a aimé, au point de le faire sortir de cette situation d'esclavage, pour lui donner son propre pays, sa propre identité nationale. Alors, à ceux qui se montrent généreux, Dieu fait des promesses. C'est le troisième temps de cette prédication. Des promesses pour les généreux. Vous avez envie que ces promesses de Dieu soient pour vous ? Ouais. Gardez votre portefeuille, votre carte bleue pas loin. Alors attention, il ne s'agit pas de tomber dans une théologie de la prospérité, hein, c'est-à-dire de croire que si je donne à Dieu tant, il va me rendre tant. D'accord ? C'est-à-dire la même chose, ou 10 fois plus, ou 100 fois plus. Attention de ne pas marchander avec Dieu. Ce n'est pas donnant-donnant. Ce n'est pas « je suis généreux, donc Dieu va être généreux avec moi ». Non. C'est parce que Dieu est généreux avec moi que j'ai envie d'être généreux avec les autres. Voilà. Il s'agit ici de faire confiance à Dieu en tant qu'individu, ou en tant qu'église, ou en tant que société, faire confiance que Dieu prend soin de nous, même si nous sommes généreux. D'accord ? Je veux être généreux, et je sais que Dieu va être généreux avec moi, même si je suis généreux. Regardons au niveau individuel. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1. L'Ecclésiaste, dans sa sage réflexion sur la vie humaine, nous donne ce conseil. « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Alors, ce n'est pas le pain qu'on jette au canard dans le parc, là. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, cette image? Oui, parce que les canards, ils mangent le pain. Voilà. Oui, on peut manger le canard après, c'est vrai. Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. L'idée de ce verset, c'est que si on donne de manière non calculée, non maîtrisée, un jour, on récupère ce qu'on a donné, quelque part. Vous voyez ? C'est pas donnant-donnant, là. C'est pas je lance un kilo de pain et puis un jour, je récupérerai un kilo de pain, ou un kilo et demi parce qu'il aura été un peu imbibé d'eau. Non. C'est que vous voyez, le pain, on le jette comme ça, sans réfléchir. On jette les restes de pain à la poubelle. Donc là, on le jette dans l'eau. Et puis un jour, ça nous revient. C'est-à-dire que c'est resté, ça flotte et hop, on peut le récupérer. C'est ça l'idée de ce verset. Ce qu'on a donné aux autres, eh ben, un jour, on peut en tirer éventuellement un bénéfice. Ça, c'est à titre individuel. À un niveau communautaire, au niveau de l'Église, Paul utilise un petit peu la même idée lorsqu'il évoque la collecte des chrétiens de Corinthe en faveur des églises de Jérusalem. Et il cherche à les rassurer si jamais ils s'inquiéteraient de manquer. Hein. Après tout, si nous décidons de faire un chèque de 2 000 € à une autre église dans le secteur qui aurait des besoins urgents, on pourrait hésiter, on pourrait se dire oui, mais ces 2 000 €, à la fin de notre année comptable, ça va faire un trou dans notre budget, dans notre trésorerie. Eh bien, Paul, qui est confronté à ce genre de questions de la part des Corinthiens, leur dit « Attention, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, donc il y avait une famine à Jérusalem et les églises de Jérusalem étaient en difficulté financière. Voilà. Donc dans la circonstance présente, votre superflu, les Corinthiens avaient largement de quoi subvenir à leurs besoins, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu, puisque les autres chrétiens vont être généreux avec eux, ils vont avoir du superflu, eh bien leur superflu pourvoit pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, verset suivant, « Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. » Vous savez d'où ça vient ce verset ? Oui, c'est une citation de l'Ancien Testament. Lorsque le peuple était dans le désert, Dieu, dans sa générosité, a donné la manne. C'est cette espèce de grain, de farine que le peuple ramassait. Et puis, ça leur servait pour faire des pains, des gâteaux. Hein. Dans le désert, c'est par excellence l'endroit où on manque de tout. Eh bien, dans le désert, Dieu donnait jour après jour cette manne pour que le peuple puisse manger à sa faim. Et il fallait ramasser ce qui était nécessaire pour la famille et pour les gens, les voisins, etc. Et ceux qui en prenaient trop, qui faisaient des réserves, par exemple pour le jour du sabbat, le jour du repos, on prenait la double portion pour avoir de quoi manger le jour du repos, mais ceux qui voulaient faire plus de réserves, eh ben, Dieu faisait en sorte que la nourriture pourrisse. Justement pour respecter le fait que Dieu donne à chacun, à chaque famille, selon les besoins, jour après jour. Et c'est ça que dit, c'est pour ça que Paul cite ce verset ici. Hein. Celui qui avait ramassé beaucoup de manne n'avait rien de trop parce qu'il en donnait aux autres. Et celui qui n'en avait pas ramassé assez, parce qu'il n'avait peut-être pas bien calculé, eh ben il n'en manquait pas parce que s'il en manquait, ben il pouvait se tourner vers ses voisins qui en avaient ramassé plus. Tu peux remettre le verset d'avant. C'est cette règle d'égalité que Paul a en tête lorsqu'il parle aux Corinthiens et qui leur dit, ben voilà, vous avez du superflu dans vos offrandes et l'église de Jérusalem est en difficulté. Donnez à vos frères et sœurs à Jérusalem et comme ça, le jour où eux, ils seront dans le superflu et vous dans le besoin, eh bien, ils pourront à leur tour exprimer leur générosité envers vous, voyez. Et si jamais c'est pas en aller-retour, dans un sens ou dans un autre, ça marche aussi cette règle d'égalité. Si nous avons du superflu dans notre budget et que nous faisons un don à une autre assemblée et que nous n'avons pas de besoin urgent par la suite, et bien cette église peut à son tour donner de son superflu à une autre assemblée. Et voyez comment cette règle d'égalité peut être mise en pratique. Enfin, au niveau d'une population plus large que celle d'une église, on a vu au niveau individuel, au niveau de l'église, au niveau de la population d'un pays, là c'était adressé à toute la nation d'Israël, Malachie chapitre 3 verset 10, un verset bien connu, souvent sorti du chapeau pour lui faire dire un peu tout et n'importe quoi que Dieu va nous combler de bénédictions. Malachie chapitre 3 verset 10, Dieu dit... Apportez à la maison du trésor, donc au temple à l'époque par exemple, toutes les dîmes, la dîme c'est 10% de ses ressources, de ses revenus, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Les écluses des cieux, c'est quoi? C'est la pluie. Hein? Et là encore... mettre Dieu à l'épreuve, c'est lui faire confiance qu'en temps voulu, il va envoyer la pluie, là de nouveau comme une bénédiction, pour faire mûrir les fruits des champs et pouvoir faire des récoltes qui vont pourvoir aux besoins de tout le peuple. Et Dieu invite ce peuple incrédule à le mettre à l'épreuve, à lui faire confiance qu'il est un Dieu généreux. Et que sur cette base que Dieu est généreux, alors le peuple ne doit pas hésiter à donner 10% de ce qu'il a. Alors, le Nouveau Testament ne parle plus de dîmes, ne nous donne pas de chiffres précis, parle simplement d'offrandes, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure, nous avons fait circuler des enveloppes. Mais imaginons que vous ne sachiez pas quoi donner, quelle part de vos biens donner, la dîme reste un très bon point de repère, 10%. Il y a donc des promesses pour les généreux. Il y a aussi quelques avertissements, j'en citerai seulement un, dernier verset, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. C'est de nouveau Paul qui parle aux Corinthiens, dans sa première lettre cette fois, il dit « Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume, il parle du royaume de Dieu, pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. » J'ai mis en italique les avares. Voilà. Dieu fait des promesses à ceux qui sont généreux. Dieu avertit aussi ceux qui sont cupides ou avares, qui sont tellement attachés à leur argent, à leur livret A, à leur épargne, à leurs économies, dans le sens de garder pour soi, qu'ils ne sont pas ou plus capables de donner et d'être généreux. Notre non-générosité, l'endurcissement de notre cœur, comme on a lu tout à l'heure, est un signe, ou pourrait être un signe, que nous n'investissons pas dans le bon royaume, que nous n'investissons pas dans la bonne banque. Et là, il ne s'agit pas de banque éthique ou pas éthique, hein. Il s'agit de, est-ce qu'on met notre confiance dans notre banque terrestre ou dans notre banque céleste ? Et vous voyez, cette histoire d'être attaché à l'argent, de soif de posséder, de cupidité, d'avarice, est dans une liste large, et d'ailleurs non exhaustive, on pourrait ajouter d'autres choses, hein, de toutes sortes de péchés. Je reviens un petit peu à notre système économique, et à ce que je disais en introduction, pour dire en conclusion que un système économique, en fait, il est toujours généreux. Tout dépend de ce qu'il vise et pour qui il fonctionne. Des études sociales, scientifiques montrent que le système économique actuel est généreux pour qui ? Pour les plus riches, n'est-ce pas ? Notre système économique est très généreux pour les plus riches, pour les actionnaires, pour ceux qui touchent une rente, pour les dirigeants des très grandes entreprises. Ça nous choque toujours quand un dirigeant quitte son entreprise avec des millions et des millions, alors que les ouvriers n'ont pas eu d'augmentation de salaire depuis des années. Et c'est normal qu'il y ait quelque chose qui nous choque. Même si on peut aussi discuter du niveau de responsabilité, etc. Mais c'est normal qu'il y ait quelque chose qui nous choque dans ce système. L'écart entre les bas salaires et les plus hauts salaires ne cesse d'augmenter. Et de même, l'écart entre les personnes les plus riches et les plus pauvres dans un pays donné, et en France aussi. Et nous voyons entre les pays que les pays les plus riches, entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres, là aussi, les écarts grandissent. Donc, ce matin, nous n'avons pas à décider si nous voulons que l'économie soit généreuse. Ce que nous avons à décider, c'est envers qui nous voulons que cette économie soit généreuse. Envers les riches ou envers les pauvres ? Envers les pauvres du Nord, envers les migrants, envers les pauvres du Sud, etc. Et cela pose la question à la fois de notre propre générosité individuelle, communautaire, et aussi de la répartition, on a vu dans les vidéos tout à l'heure, de la distribution et de la consommation des richesses. La Bible nous demande d'agir avec justice envers le pauvre et envers le riche. Comme Ghislaine l'a dit tout à l'heure, la Bible ne condamne pas la richesse en soi. Jésus n'a jamais blâmé les riches parce qu'ils étaient riches, mais parce qu'ils attachaient leur cœur à leur richesse présente et matérielle, et que ça les empêchait d'entendre la parole de Dieu. Mais Zachée, l'exemple de Zachée, nous montre l'exemple d'un riche qui a donné une bonne partie de ses biens. Par contre, le jeune homme riche, à qui Jésus demande de tout quitter pour le suivre, lui ne peut pas laisser ses richesses. Donc, la Bible nous demande d'agir avec justice envers le pauvre et envers le riche, et à l'image de notre Dieu, d'être généreux envers tous. Elle nous demande d'agir avec plus de générosité, en particulier de générosité envers le pauvre. Certains économistes nous affirment que l'économie de marché amène à plus d'équité. La Bible nous affirme, au contraire, qu'avec une économie généreuse, Dieu ouvrira pour nous les écluses des cieux et répandra sur nous la bénédiction avec abondance. À vue humaine, cela semble peu réaliste, mais les théories économiques humaines ont montré leurs limites et leurs faillites. Un jour, notre système boursier va complètement s'écrouler. Et notre vue humaine et les études des économistes de notre monde sont celles d'un monde marqué par le péché, qui ne peut pas voir l'œuvre de Dieu. Pour voir l'œuvre de Dieu, la générosité de Dieu, il faut pour cela les yeux de la foi. Je nous laisse donc sur cette question. Ferons-nous donc confiance aux théories de ce monde marqué par le péché, le désir du profit et l'idolâtrie de l'argent, ou au Dieu généreux? Je vous invite à prendre quelques instants de silence et je terminerai par la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ta générosité. Merci pour ton amour manifesté pour nous en Jésus-Christ. Merci aussi pour ton appel à être à notre tour généreux comme tu es généreux. Aide-nous à regarder autour de nous envers qui nous pourrions à notre tour manifester notre générosité. Peut-être nous pouvons donner plus, peut-être nous pouvons donner mieux, peut-être nous pouvons donner de notre temps. Seigneur, montre-nous dans cette semaine une piste pratique pour changer quelque chose dans notre manière de gérer notre budget, de consommer, de gérer l'argent et cette planète que tu nous confies. Pas seulement pour faire écolo, pas seulement pour suivre les tendances à la mode, mais en ayant réellement conscience que toi, tu te soucies du bien de ce monde. Toi, tu te soucies de la manière dont nous gérons ce que tu nous as confié. Parce qu'un jour nous te rendrons compte de cela, mais aussi parce que c'est la mission que tu nous confies. Seigneur, fais-nous la grâce de pouvoir voir tout au long de cette semaine toutes les bénédictions que tu nous accordes. Nous voyons souvent les difficultés. Nous voyons souvent les soucis, les préoccupations, comment boucler la fin du mois, comment essayer d'avoir plus d'argent, comment gérer le remboursement de nos prêts. Seigneur, aide-nous aussi à voir tout ce que tu nous donnes. considérer toutes tes bénédictions, à en être reconnaissant, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, et que cela nous pousse aussi à être généreux avec les autres, comme toi tu es généreux avec nous. Aide-nous à voir aussi en tant qu'Église comment nous pouvons progresser dans la générosité envers les autres. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Amen.